France Inter, le 18-20.
Le 18-20 sur la chute vertigineuse du prix du pétrole, moins 50% pour le baril de Brent entre septembre 2014 et septembre 2015. Le baril est à environ $50. Plus récemment, les cours se sont affolés avec des remontées en flèche suivies de baisses tout aussi irrationnelles. Cette volatilité n'inversant pas de toute manière l'allure générale de la courbe qui reste très largement orientée à la baisse. Alors à qui profite cette conjoncture? Est-elle bonne pour les ménages, les entreprises, l'État, bref, pour l'économie française? On en débat ce soir.
Nicolas Demorand, le téléphone sonne.
Particuliers chauffés au fioul, automobilistes, entrepreneurs ou auditeurs curieux de comprendre cette nouvelle donne énergétique, j'attends vos questions au 01 45 24 7000 sur franceinter.fr et sur Twitter avec le hashtag Telson. C'est Loïc qui ouvre le bal. Bonsoir et bienvenue.
Oui, bonsoir, merci de prendre mon appel. Ma question pour vers le bal, donc, c'était quand le pétrole augmente, on voit bien l'augmentation assez rapidement à la pompe et en conséquence. Par contre, quand ça baisse, on a du mal à voir la baisse en conséquence et rapidement. Enfin, c'est ce que je constate. Mmh. Et l'autre question, c'était le pétrole est utilisé un peu dans tout, finalement. Quand il y a des grosses augmentations du pétrole, tout augmente, même ma baguette va augmenter. Par contre, quand il y a une baisse du pétrole, on ne voit pas trop les baisses sur les produits de grande consommation et j'aurais voulu savoir pourquoi en fait.
Eh bien écoutez, il y a des hommes de l'art pour vous répondre. Thomas Porcher, que je salue, bonsoir. Économiste, professeur en marché des matières premières à la PSB, la Paris School of Business, auteur de 20 idées reçues sur l'énergie. C'est publié chez Debox Supérieur. Francis Perrin, que je salue, bonsoir. Président de Stratégie et Politiques Énergétiques, directeur de la rédaction et de la publication de Pétrole et Gaz Arabe. Et on termine ce tour de table avec Francis Dusseux, bonsoir, monsieur le président de l'Union française des industries pétrolières, qui répond à Loïc sur le fait que la baisse des prix du prix du baril ne se répercute pas de la même manière à la pompe, pour commencer. Alors monsieur Dusseux.
Écoutez, pour une raison simple, c'est que dans le prix d'un litre de gasoil, vous n'avez que 30% de matières premières qui représentent l'évolution du brut. Le reste, ce sont des taxes. Vous avez une taxe fixe imposée par le gouvernement et vous avez la TVA qui, là, fluctue légèrement puisque elle est de 20%. Mmh. Et donc, malheureusement, si le prix du brut baisse de 50%, la baisse qui s'applique à la matière première, elle est moins de 15%. Donc effectivement, mais c'est lié aux taxes, monsieur.
Quelqu'un veut continuer sur ce thème, Thomas Porcher?
Oui, c'est vrai, quand on regarde la vitesse de répercussion à la hausse et à la baisse, nous on avait fait une étude sur une vingtaine d'années, on se rendait compte effectivement qu'il y avait plus d'asymétrie de répercussion à la hausse et à la baisse entre 90 et 2000 qu'il y en a aujourd'hui. Aujourd'hui, on a...
Vous me la refaites plus clair?
Alors c'est vrai qu'à un moment, on se rendait compte que les hausses de pétrole étaient beaucoup plus répercutées sur les prix que ne l'étaient les baisses, mais quand on fractionne un petit peu ces temps-là, on se rend compte que c'était plus entre 90-2000 qu'aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, il y a un marché qui est plus concurrentiel, notamment avec les grandes et moyennes surfaces. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas être vigilant. Parfois, quand vous ne reportez pas sur quelques jours, il y a quelques centimes qui peuvent faire quelques dizaines ou centaines, ça dépend si vous êtes un grand distributeur, de marge en plus. Mais globalement, on se rend compte que quand on analyse sur les trois dernières années, on voit qu'il y a une symétrie qui est plus proche de la perfection que c'était le cas au début.
Francis Perrin, je note quand même qu'à la pompe, là, les prix ont baissé. Hein. Alors, évidemment, pas dans la même proportion, c'est ce que vous venez de dire, que le baril lui-même, mais les prix n'ont jamais été aussi bas depuis quelques années même. Francis Perrin.
Alors, entre l'évolution des prix du pétrole sur les marchés internationaux, du pétrole brut, et l'évolution des prix des produits pétroliers, par exemple en France, il y a deux différences. Celle qu'a rappelé Francis Dusseux, c'est-à-dire l'essentiel, le poids des taxes dans le prix, notamment des carburants, hein, qui représente 60 à 66%, selon qu'il s'agisse de gazole ou de sans-plomb 95. Et puis, il y a l'évolution du taux de change entre l'euro et le dollar. Mmh. Puisque les prix du pétrole sont fixés en dollars, on parle toujours de $50 par baril, etc. Donc, évidemment, si l'euro est plus faible par rapport au dollar, cela va aussi contribuer à réduire pour la France le bénéfice d'une baisse des prix exprimés en dollars.
Donc il faut mettre cette variable aussi. Claude est au standard. Bonsoir et bienvenue.
Oui, bonsoir.
Nous vous écoutons, Claude.
Merci d'apprendre mon appel et je vous souhaite une bonne année radio, aussi bonne que la précédente.
C'est gentil, merci beaucoup.
Oui, j'ai posé ma question, mais qui est sensiblement la même que la première.
C'est pas grave, la pédagogie, c'est la répétition.
Voilà. je voulais avoir une explication de la raison pour laquelle j'ai appris ces temps-ci que l'électricité avait augmenté, du fait que l'électricité avait augmenté alors que le pétrole baissait, lui, et on a souvent parlé de la baisse du pétrole ces temps derniers.
Mmh.
Donc ça explique, je voudrais expliquer pourquoi le gaz va augmenter, il a augmenté, et l'électricité également, alors que le pétrole baisse, et que vous avez souvent assez répété qu'il était indexé sur le prix du pétrole.
Ok Claude, merci beaucoup pour cette question. Thomas Porcher vous répond.
Le prix de l'électricité et le prix du pétrole, c'est deux choses complètement différentes. Hein. L'électricité vient majoritairement chez nous du nucléaire. Or, on a des coûts croissants dans le nucléaire, dû notamment à l'augmentation des assurances, l'augmentation de la sécurité depuis l'accident de Fukushima, Areva qui va pas très bien, le fiasco de l'EPR. Enfin, il y a tout un tas de choses qui montrent que les prix de l'électricité sont orientés à la hausse. Le pétrole n'a absolument rien à voir avec les prix de l'électricité. Pour le gaz, c'est vrai que le prix du gaz est indexé en partie au prix du pétrole. Et donc, il est possible, effectivement, que quand le prix du pétrole diminue, qu'il y ait une partie du prix du gaz qui augmente. Mais c'est quand même, il faut regarder les énergies à part. Le pétrole sert majoritairement pour les transports, hors pour l'électricité. Là, on peut faire de l'électricité avec du nucléaire, avec du charbon, avec du gaz. On fait pas de charbon en France. Mmh. Mais c'est deux choses qui sont complètement différentes. Donc l'un et l'autre ne sont pas reliés.
Une question d'Anna via Twitter avec le hashtag Telson. À cause / grâce à quel mécanisme le baril est en baisse? Point d'interrogation. Francis Dusseux.
Oh, écoutez, pour faire simple, quatre éléments principaux. Le premier, la production de pétrole de schiste aux États-Unis qui a explosé. Plus 5 millions de barils jour en 3 ans. C'est colossal. On l'a pas vu venir. Hein. Personne. Oui. Deuxièmement, un changement de politique drastique de l'OPEP. Sa réunion de novembre de l'an dernier, 2014, ils ont décidé pour la première fois de ne plus réguler la production.
C'est étonnant comme décision.
Leur souci, c'était de perdre des parts de marché.
Expliquez-nous le raisonnement.
Eh bien, si vous voulez, leur coût de production en Arabie Saoudite ou dans les pays du Golfe, il est bien inférieur au coût de production du pétrole de schiste. Donc, leur raisonnement était simple. Si les prix du pétrole baissent, le pétrole de schiste aux États-Unis, la production va baisser. Donc, je vais regarder ma part de marché. Troisième élément, l'Iran. C'est plus récent, mais vous avez vu au mois de juin. La levée des sanctions, potentiellement, c'est compliqué, hein, parce qu'il faut que le Congrès, M. Obama, a lancé l'approche.
Les barils iraniens ne sont pas encore revenus. Hein,
voilà, mais à terme, c'est au moins 1 million de barils jour supplémentaires sur le marché, c'est conséquent. Et puis, dernier élément qui est très très récent, c'est la semaine dernière, c'est ce qui s'est passé en Chine. Parce que la Chine est un consommateur de pétrole énorme, deuxième consommateur au monde après les États-Unis. Gros acteur. Je m'amusais à regarder un chiffre entre juillet 2015 et juillet 2014. L'appel en pétrole brut de la Chine a augmenté de 22%. Donc vous connaissez tous hein, la croissance. Alors là, la croissance se ralentit. Il semblerait qu'on est loin d'une croissance à deux chiffres. C'est pas non plus la récession. Hein. Je pense qu'on va avoir 4 à 5%. Donc ça va continuer à tirer. Mais ceci dit...
Enfin, 3 des 4 facteurs pardon, que vous venez de décrire semblent structurels ou en tout cas destinés à durer.
Absolument.
Ça va durer, Francis Perrin, même sentiment?
Alors, sur l'Iran, effectivement, la levée des sanctions ne devrait s'appliquer qu'à partir de l'an prochain. Exactement quand, on ne le sait pas, mais en 2016. Mais ce qui est clair sur les marchés pétroliers, c'est que déjà, on anticipe l'augmentation l'an prochain de la production iranienne, de sa production et des exportations. Et Francis Dussel l'a rappelé, l'objectif des Iraniens est clair. Nous voulons augmenter l'an prochain de 1 million de barils par jour notre production. C'est effectivement important et plus après, évidemment. Il y a un autre élément, c'est que l'OPEP, non seulement effectivement, contrairement à ce qu'elle avait l'habitude de faire par le passé, en novembre 2014, en juin 2015, a dit « je ne fais rien, je ne réduis pas ma production pour faire remonter les prix ». En plus, quand on regarde les chiffres de la production, des estimations de la production de l'OPEP, en plus sa production augmente au cours des derniers mois. Donc non seulement elle ne réduit pas, et en plus dans les faits, même si elle ne le dit pas, elle augmente. Il y a un troisième élément, c'est que les stocks pétroliers dans le monde sont très abondants. Dans les pays de l'OCDE, donc les pays occidentaux, pour aller vite, ils sont à un niveau record en termes historiques. Et quand vous avez des stocks très élevés, ça pèse évidemment sur les prix dans le sens de la baisse.
Donc on peut dire qu'il y a durablement beaucoup, voire trop de pétrole sur le marché, Thomas Porcher ?
Oui, c'est difficile à dire parce que tout dépend de la capacité de résistance qu'auront les pétroles de schiste américains. Enfin, si on a un prix qui descend, parce que là, l'OPEP a augmenté sa production, vous l'avez dit. Alors, imaginons que l'Iran s'ajoute à cette production. Si on a un prix qui se centre autour de 30-40 dollars pendant un an, la Banque mondiale annonçait même un prix peut-être à 20 dollars. Donc, on ne sait plus maintenant, tout est possible. Mmh. Mais un prix à 30-40 dollars pendant 6-8 mois, vous allez quand même faire très mal au pétrole de schiste américain. Et là, ils vivent un stress test pour l'instant. Fin du premier épisode, ils ont très bien réussi parce que finalement ils ont bien résisté, la production a continué à augmenter, mais faut voir quelle sera la suite. Mais c'est vrai que la dernière fois que l'Arabie Saoudite et que l'OPEP ont joué cette technique de guerre des prix, on a eu 15 ans de prix bas. Sauf que là, il faut dire une chose, c'est que les cycles de production des pétroles de schiste sont beaucoup plus courts que les pétroles conventionnels et qu'au bout de 2 ans, la production s'affaisse. Et donc là, d'ici 2 ans, on y verra beaucoup plus clair pour savoir si les prix vont remonter ou pas, mais ils remonteront probablement pas au seuil qu'on avait connu, au-dessus de 100 dollars avant la chute.
Retour au standard de France Inter, au standard du téléphone sonne, 01 45 24 7000. Bonsoir Jackie, vous nous appelez de Nîmes et nous sommes très heureux de vous écouter.
Eh bien écoutez, je suis très heureux également d'entendre ces discours sur le pétrole. Mais ma question c'est... pourquoi ne profite-t-on pas de cette baisse de pétrole pour faire une cagnotte afin de financer les énergies renouvelables et les énergies qui vont nous faire vivre d'ici 20 à 30 ans, parce qu'on sait que le pétrole est en fin de course d'ici 20 à 30 ans. Et ça approche très très vite, sans parler des problèmes de carbone.
Merci Jackie pour cette question. Francis Duceux, président de l'Union française des industries pétrolières, qui donc d'ici 20 ans, nous dit Jackie, n'aura plus de travail puisqu'il n'y aura plus de pétrole.
Non, mais monsieur, le gouvernement s'est déjà occupé d'augmenter les taxes. Un des résultats de la loi de transition énergétique a été de définir une trajectoire carbone, c'est-à-dire l'introduction d'une taxe carbone sur les carburants, qui était de 5 centimes déjà votée au 1er janvier de cette année 2015, qui va encore augmenter de 2 centimes au 1er janvier 2016. On est en train, dans le cadre de la loi de finances qui est débattue actuellement, peut-être d'augmenter de 3 à 4 centimes cette taxe au 1er janvier de l'année prochaine, en discussion. Et puis alors, la trajectoire, c'est 100 euros la tonne en 2030. Ça veut dire, sur les carburants, un impact supplémentaire de 25 centimes le litre. Donc, si vous voulez, nos responsables s'en occupent. Alors, à côté de ça, vous avez aussi des phénomènes qui sont, on baisse la consommation, les moteurs s'améliorent. Il est indéniable qu'on va voir avec le temps une baisse de la consommation. C'est absolument clair.
Une question qui va dans le même sens de Margot de Rennes via Internet. Pourquoi l'État ne taxe-t-il pas davantage les carburants ? Le citoyen français était capable de payer 1,40€ son litre de diesel il y a un an. Il paierait le même prix aujourd'hui et la différence pourrait servir à renflouer les caisses de l'État qui sont si vides, paraît-il, Thomas Porcher. Même raisonnement, mais une affectation du gain différent, non pas dans les renouvelables, mais dans les caisses de l'État vides.
Oui, alors bon, c'est vrai qu'on s'est rendu compte ces 10 dernières années que quand on a eu un prix du pétrole élevé, il y a eu énormément d'efforts dans l'efficacité énergétique, notamment des véhicules. On a eu des véhicules plus légers, il y a même des grands constructeurs allemands qui ont fait des voitures hybrides, des voitures électriques. Donc il y a eu un effet, un signal prix qui a été ressenti par les constructeurs. Et c'est vrai que là, le fait que ça baisse, on voit qu'il y a des effets tout de suite inverses. On rachète des voitures qui sont gros moteurs aux États-Unis. Donc, il n'y a pas du tout l'effet positif pour la transition énergétique. Maintenant, c'est vrai qu'une hausse des prix des carburants affecte différemment les Français. Il faut le dire, quand vous vivez à Paris, il n'y a que 14% des gens qui utilisent leur voiture parce qu'il y a des transports en commun. Quand vous vivez en province, c'est 85% le taux d'utilisation de la voiture pour aller travailler. Donc, vous voyez, moi, je suis même pour qu'on refonde complètement cette fiscalité, qu'on la mette à plat, de sorte qu'elle soit un peu plus équitable. Et après, pour le gouvernement, il ne faut pas que le gouvernement, pour moi, enfin, ou que les politiques se comportent un peu comme des traders, c'est-à-dire que quand le prix est faible, il faut vraiment qu'il y ait une politique énergétique de long terme qui fasse fi des variations des prix du pétrole. Et là, si on va dans la transition énergétique, il faut y aller plein pot, que le prix soit à 50 dollars ou à 100 dollars du pétrole, ça ne doit pas changer l'axe politique.
Francis Perrin, sur ces péréquations possibles.
En France et de façon générale en Europe occidentale, les carburants sont des produits extrêmement taxés. Dans le cas de la France, par rapport au prix à la pompe que paie le consommateur, c'est 60 à 2 tiers du prix qui est constitué de taxes. C'est considérable. Comme l'a rappelé le président de l'UFIP, il y a des augmentations d'ailleurs qui sont prévues à travers la contribution climat-énergie. Mais n'oublions pas que nous sommes en 2015, c'est donc 2 ans avant 2017. Et 2017, il se passe quelque chose en France.
C'est l'élection présidentielle.
Voilà, exactement, j'y faisais allusion. Voilà. Et donc, je serais quand même assez surpris que même au nom de la protection de l'environnement et de la lutte contre le changement climatique, les autorités actuelles procèdent à de plus fortes hausses encore du coût des taxes dans les prix des carburants. C'est un sujet quand même sensible, mais il y aura donc des augmentations qui sont déjà programmées. Elles resteront sans doute modérées pour des raisons politiques. Cela dit, ce que disait notre auditeur, évidemment, est un vrai problème, pas seulement au niveau français, mais au niveau mondial. Des prix du pétrole élevés, pour simplifier, pour aller très vite, c'est pas très mauvais pour la planète. Des prix du pétrole qui baissent, qui sont très bas, et beaucoup de gens disent qu'ils pourraient encore être plus bas, effectivement, pour la COP21 à la fin de l'année, c'est pas quand même un environnement très favorable, il faut bien le reconnaître.
Environnement, il faudrait peut-être même trouver un autre mot. Francis Dussault.
Oui, non, juste un mot très rapidement. Il faut pas oublier quand même que on souffre en France, le pouvoir d'achat des gens n'est pas très élevé, l'économie n'est pas très bonne. Donc là, ça relance quand même un peu la croissance et ça redonne du pouvoir d'achat aux ménages. Là, je faisais un petit calcul. Vous remplissez votre cuve de fioul domestique, c'est 200 à 300 euros de moins cette année que l'année passant. C'est beaucoup d'argent.
Beaucoup d'argent, oui.
Vous, une voiture qui roule 15 000 km par an, 6 litres au 100, vous gagnez aussi 250 euros. Donc je crois que pour le gouvernement, c'est une façon de relancer un peu le pouvoir d'achat des gens. En ce moment, c'est important. Vous relancez aussi les marges des entreprises. Hein ? Parce que grosso modo, on évoque 16 milliards de gains supplémentaires pour la France. Environ 6 pour les ménages, le reste 9 pour les industriels, pour la chimie par exemple. La chimie va économiser 1,5 milliard d'euros cette année. C'est important parce que ça va améliorer la marge des entreprises. On en a bien besoin compte tenu de la situation française.
Émilien est au standard de France Inter. Bonsoir et bienvenue.
Oui, bonsoir Nicolas.
Nous vous écoutons.
Bah, Nicolas, je vais demander à vos invités, j'ai bien entendu les calculs, les explications sur pourquoi est-ce que la baisse du prix du brut ne se reflète pas totalement à la pompe. Je vais demander à vos invités ce qu'ils pensaient de cet article paru dans le Canard Enchaîné la semaine dernière, qui explique que la principale raison, c'est pas des histoires de taux de change, c'est pas des histoires de taxes, c'est tout simplement que les raffineurs, eux, en profitent pour augmenter leur marge, pour exploser leur marge à la hausse. Et l'article expliquait que les raffineurs, ce sont les pétroliers. C'est-à-dire qu'en gros, ce que Total pétrolier ne gagne plus d'une main, il le récupère Total raffineur de l'autre côté.
Eh ben, écoutez, merci pour cette question, Émilien. Je soumets l'analyse à Thomas Porcher pour commencer.
Enfin, constamment, quand les prix diminuent, la marge de raffinage augmente. La marge de raffinage, c'est la différence entre les prix sur le marché de Rotterdam et les prix du brut. On l'a vu constamment. Toutes les raffineries n'appartiennent pas quand même à Total et beaucoup de raffineries ont fermé ces dernières années. Il y a eu quasiment une raffinerie par an, je crois, qui a fermé entre 2009 et 2012. Donc, ça faisait quand même beaucoup. Donc là, effectivement, ça va un petit peu mieux. Mais peut-être qu'il y a un jeu, mais peut-être qu'il y a un jeu, mais je pense pas globalement. Enfin, qu'il faut aller voir de ce côté-là.
Est-ce que les marges des raffineurs ont explosé, Francis Dussault, pardon?
Oui, comme M. Porcher vient de le dire, on a vu une nette amélioration. Je crois qu'une des raisons principales, c'est que 40% du budget de fonctionnement d'une raffinerie, c'est le combustible. Ben voilà, c'est des produits pétroliers, ça a baissé de moitié. Mais au-delà de ça, il faut rappeler que sur les 5 années précédentes, les marges de raffinage étaient très déprimées. Pourquoi ? C'est parce qu'on a un surplus de capacité de raffinage en Europe. Et là, il y a 4 raffineries qui viennent de fermer en France, comme vous le rappelez. Il y en a une 5e qui est en train de se reconvertir. Et moi, je crois, et les pouvoirs publics sont d'accord, et les Européens sont d'accord, on a intérêt, nous, grands pays européens, à conserver un outil de raffinage. Parce que si les grands pays comme le nôtre étaient complètement dépendants des importations de produits finis, ce serait extrêmement dangereux. Alors que le gouvernement, ne parlons même pas des pétroliers, le gouvernement français sera en mesure de négocier des grands contrats d'approvisionnement en brut. Donc, garder un outil de raffinage compétitif pour sécuriser l'approvisionnement des Français, c'est extrêmement important. Alors, pour revenir à la question de monsieur, c'est vrai qu'après avoir perdu des grosses sommes, 3,5 milliards en 5 ans, c'était beaucoup.
Ils reconstituent vraiment leur marge.
Voilà, un ballon d'oxygène qui ne va pas durer d'ailleurs, parce que des analyses nous prévoient que finalement les marges vont s'éroder parce qu'on arrive en fin de ce qu'on appelle la driving season. Vous savez, aux États-Unis, on roule beaucoup sur les mois d'été. Là, on arrive en fin de cycle. Et là, notre prévision, on est toujours dans un contexte de surplus de raffinage en Europe, donc ça ne devrait pas durer.
Francis Perrin.
Les chiffres sont clairs, effectivement. Les marges de raffinage sont beaucoup plus importantes depuis le début de l'année qu'en 2014. Donc ça, c'est un fait. Ensuite, l'idée consistant à dire, puisque les marges de raffinage augmentent, c'est la principale raison qui explique l'écart entre la baisse des prix du brut et la baisse des prix des produits raffinés, là, c'est faux. Parce qu'évidemment, on n'est pas de la même importance. N'oublions pas que dans le prix que l'automobiliste paie à la pompe, il y a donc au moins de l'ordre de 60% de taxes, il y a à peu près 30% qui représentent le pétrole ou les produits pétroliers, et le reste, c'est les coûts et les marges de l'industrie. Donc voilà, on n'est pas sur la plus grande composante des prix des carburants, même si effectivement, oui, incontestablement, les pétroliers ont profité de la conjoncture pour augmenter leur marge cette année, mais ce n'est pas le facteur essentiel.
Merci d'écouter Le Téléphone Sonne, il est 19h43.
France Inter, le 18-20. Vos questions au 01 45 24 7000 et sur les réseaux sociaux avec le hashtag Telson.
Et la parole est à vous, Damien. Bonsoir et bienvenue.
Oui, bonsoir. Je voulais savoir si au global, le pétrole était plutôt un point positif ou une charge pour la France. Concrètement, c'est une matière première qu'on transforme. On en fait du plastique, on en met dans les Airbus, dans les avions. Ensuite, quand je roule avec ma voiture pour une activité professionnelle et une activité, cette activité génère une économie, fait vivre la France. Donc, est-ce que cette économie et tout ce qu'on génère de gains là-dessus, est-ce que ça compense l'argent qu'on sort pour acheter cette matière première aux pays producteurs? Voilà.
Merci Damien pour cette question, cette équation. Thomas Porcher vous répond.
Quand on regarde un litre de pétrole, ça vaut moins cher presque un litre de coca. Donc, alors que c'est très utile, le pétrole, c'est présent dans toutes nos sociétés, comme vous l'avez dit, dans les plastiques, dans les moyens de transport. Maintenant, le pétrole porte atteinte à autre chose aujourd'hui, et là, on va en parler beaucoup dans un mois ou deux, c'est le climat.
Et maintenant, dans le téléphone,
C'est le climat. Donc, il faut faire en sorte, quand même, que l'on consomme le moins possible via de l'efficacité énergétique dans les voitures, via un développement des transports, il faut qu'on consomme le moins possible de cette énergie parce qu'on est un pays développé, on est un pays tertiarisé et c'est à nous de faire des efforts. Il y a d'autres pays comme les pays émergents, eux qui ont une industrie à développer énorme et qui consomment beaucoup plus d'énergie. Nous, on doit faire beaucoup plus d'économies. On en a déjà fait au moment des chocs pétroliers. On doit en faire d'autres maintenant pour le climat. Et c'est là que se joue pour moi l'essentiel du prix du pétrole. Je dirais une dernière chose. Là, on a beaucoup parlé des petits centimes qu'il pourrait y avoir en plus sur les pétroliers, sur les prix du carburant. Moi, je faisais beaucoup d'études avant là-dessus. Mais ce n'est que des centimes. Pour beaucoup de pays, là, dans le monde, la baisse des prix du pétrole est extrêmement douloureuse. Tous les pays africains qui ont une population majoritairement vivant avec $1, qui vont avoir des coupes dans les budgets, dans les salaires des fonctionnaires, etc., ça risque d'être extrêmement grave. Donc, en réalité, au niveau mondial, la situation pour des pays est bien plus grave que celle des répercussions sur les prix des carburants que l'on peut vivre en France.
Est-ce que Francis Perrin veut réagir à la question de notre auditeur, Damien ?
La France importe 99% du pétrole qu'elle consomme. Donc, évidemment, à court terme pour la France, c'est une très bonne nouvelle. Pour notre balance commerciale, notre balance des paiements, pour les automobilistes, pour ceux qui se chauffent au fioul domestique, pour beaucoup d'industriels, pour l'agriculture, pour la pétrochimie, etc., le transport. Au niveau mondial, et là je suis toujours dans le court terme, Thomas Porcher a rappelé à juste titre qu'il y a des pays producteurs, notamment des pays en développement, extrêmement dépendants des revenus pétroliers, qui sont en train de souffrir de façon considérable. Par contre, tous les pays importateurs de pétrole gagnent. Comme il y a plus de pays importateurs que de pays producteurs, en gros, pour aller très très vite, au niveau mondial, en termes purement macroéconomiques, c'est certainement un gain pour l'économie mondiale. Ça, on est dans le court terme. Ensuite, est-ce qu'à moyen et long terme, une baisse des prix du pétrole, avec ce que ça implique, et pas seulement dans le domaine macroéconomique, on parlait du changement climatique, de la lutte contre le changement climatique, est-ce que c'est une bonne chose d'avoir des prix du pétrole bas, à moyen et à long terme pour le monde? Ça, c'est une autre question.
Francis Dussault.
Oui, je crois qu'il faut se rappeler que la population mondiale va augmenter considérablement. On va bientôt être à 9,7 milliards d'individus. Et là, on aura besoin de pétrole pendant encore très longtemps. C'est de plus en plus difficile de trouver du pétrole conventionnel. Hein, on arrive à des pétroles de schiste, de l'offshore profond, de l'extraction de pétrole des sables bitumineux. Alors bien sûr, il y a des problèmes d'environnement, et il faut être très vigilant. Mais la planète a besoin de pétrole et de gaz pendant encore au moins 50 ans. C'est une condition sine qua non pour améliorer le niveau de vie des gens. Et une des composantes essentielles, c'est la production d'électricité. Il y a encore 2 milliards de personnes au jour d'aujourd'hui qui n'ont pas accès à l'électricité. Et là, je crois que le grand combat pour la protection de l'environnement, le moins mauvais compromis, c'est sans doute le gaz. Donc il faut s'attendre à une utilisation du gaz qui va exploser. Nos prévisions prévoient plus 60% d'augmentation de la consommation de gaz.
Thomas Porcher.
Ça dépend où. Je suis d'accord avec vous. C'est vrai que là, on a une équation très difficile. On doit donner de l'électricité à l'ensemble de la population tout en luttant contre le réchauffement climatique, ce qui est vraiment une équation difficile. Donc effectivement, le gaz est l'énergie la moins polluante des hydrocarbures. Par exemple, en Chine, le gaz, c'est beaucoup mieux que du charbon, c'est clair. Dans notre cas à nous, je pense que dans les cas... Enfin, moi, ce qui m'embête, c'est que les pays riches devraient avoir des politiques, pour moi, pro-renouvelables. Parce qu'on a les technologies, on a les moyens de le faire. Et on devrait se lancer plein pot là-dedans.
Mais là, on a l'impression, au contraire, d'une bourreau, une dernière bouffée, un dernier shoot de pétrole, regardez, pas cher. C'est le bonheur.
Mais regardez, qui est-ce qui a produit des pétroles de schiste? C'est les Américains. Première puissance mondiale, première puissance économique mondiale qui n'a pas ratifié Kyoto. Qui est-ce qui voulait aller voir s'il y avait du pétrole sous l'Arctique? C'était des compagnies de pays riches majoritairement. Donc on se rend bien compte que chez les pays riches, chez ceux qui ont le plus de moyens de faire l'ajustement vers une économie moins carbonée, sont ceux finalement qui sont moins emprunts à le faire.
Francis Dussault, c'est vrai qu'il y a quelques années encore, avant les pétroles de schiste, etc., on commençait à penser l'après-pétrole de manière relativement urgente, en se disant il va falloir se désintoxiquer très rapidement, parce qu'il n'y en aura plus. 5 ans après, les prix ont baissé, le pétrole coule à flot, il y en a trop sur le marché, et le président de l'Union française des industries pétrolières a retrouvé le sourire.
Oui, oui et non. Hein, non.
Enfin, oui, vous avez un grand sourire sur le visage.
On parlait de peak oil, parce qu'on parlait pétrole conventionnel. Et là, on sait que c'est en diminution. Par contre, la technologie, ces 10 dernières années, a changé considérablement, et on a trouvé d'autres moyens de trouver. Alors, les ressources en pétrole, c'est quoi? C'est en fait le prix qu'on veut y mettre. Et c'est ça l'enjeu.
Expliquez.
Eh ben, si vous voulez, pour aller dans l'offshore profond, il faut mettre au moins $80 le baril. Si vous voulez extraire le pétrole des sables bitumineux au Canada, il faut mettre 85-90. Jusqu'à maintenant, c'est en train de changer. L'extraction de pétrole de schiste en Amérique du Nord, c'était $70 le baril. On est en train de, parce qu'il y a des améliorations technologiques, on met la pression sur les coûts, puisque le coût du pétrole est bas, c'est en train de baisser. Il y a des gens qui évoquent plutôt 45-50 maintenant. Donc, l'enjeu de cette planète, c'est qu'est-ce qu'on est prêt à mettre comme prix sur ces énergies? Et quelles seront les alternatives technologiques, les renouvelables? C'est ça l'enjeu. Et nous, on dit, s'il vous plaît, décideurs politiques, n'opposez pas les énergies entre elles. Il faut consommer moins, il faut consommer mieux. Comme M. Porcher l'a dit, il faut qu'on soit très vigilant. Il y a une grande efficacité qui est en place déjà dans les grands pays industrialisés. Mais développons des renouvelables, mais pas au point de subventionner des choses qui ne sont pas rentables. Vous voyez, c'est un enjeu économique énorme.
Mais on a tout de même le sentiment qu'on peut en reboire, et pour pas cher, une goulée de plus, non, Francis Perrin?
Ah oui, je crois qu'il y a eu effectivement des débats, et ça continuera, sur le pic de production pétrolière mondiale, que certains voyaient proche, certains même disaient on y est, on l'a dépassé,
etc. Oui, on s'en souvient.
Bon, c'était il n'y a pas si longtemps.
Ça y est, maintenant, c'est fini, ça décroît. Maintenant, on est rois du pétrole.
Il y a le pétrole conventionnel et les pétroles non conventionnels. Les pétroles non conventionnels changent considérablement la donne parce que les réserves et les ressources sont absolument considérables. Il y a le pétrole extra-lourd au Venezuela, dans la région de l'Orénoque. Il y a les sables bitumineux dans la province de l'Alberta au Canada. Il y a le pétrole de schiste aux États-Unis. Et on n'est encore qu'au début, éventuellement, parce que le pétrole de schiste, il n'y en a pas seulement aux États-Unis. Les États-Unis sont le premier, pour l'instant, le seul pays à les exploiter massivement de façon industrielle. Mais on sait très bien que plusieurs autres pays dans le monde, dans différentes régions, ont des ressources extrêmement importantes. Et même chose pour le gaz. Pour revenir au pétrole conventionnel cette fois-ci, il ne faut pas non plus l'enterrer trop vite. Il y a une région qui s'appelle le Moyen-Orient, alors qui pose plein de problèmes politiques et stratégiques évidemment. Mais sur le plan simplement des ressources et des réserves, nous parlions de l'Iran tout à l'heure. Pendant des années, l'Iran n'a pas pu produire et exporter au niveau souhaité du fait des sanctions. Probablement, ces sanctions vont commencer à être levées en 2016, et l'Iran affiche la couleur. On nous a privés pendant des années par des sanctions cruelles, je cite les responsables iraniens, de notre part de marché.
On
veut retrouver notre part de marché, on va revenir en force sur le marché pétrolier. L'Irak est en train d'augmenter sa production, la production irakienne, en dépit d'une guerre contre l'État islamique, est à un niveau record. Jamais l'Irak n'a produit autant de pétrole, et ce n'est que le début. Parce que des champs énormes en Irak sont en cours de développement avec ExxonMobil, avec Total, avec BP, avec PetroChina, etc. Donc voilà, le pétrole, il y en a encore beaucoup. Et la question n'est pas seulement est-ce qu'on va manquer de pétrole bientôt ? La réponse est non. C'est qu'est-ce qu'on veut faire en termes d'équilibre entre les différentes énergies par rapport à différents critères
politiques, économiques, climatiques, etc. Depuis que le pétrole est à nouveau abondant, Thomas Porcher, et qu'il est si peu cher qu'on avait une idée assez claire de ce qu'il fallait faire, c'est-à-dire penser des alternatives au pétrole. Voilà, ça c'était la direction aujourd'hui. C'est moins urgent, non ?
Oui, la vraie question du XXe siècle, hein, je dis bien du XXe siècle, c'était vraiment combien de temps il nous reste de pétrole et qu'est-ce qu'on fera après quand on aura utilisé toutes les réserves. Alors là, il y avait tout un tas de livres qui étaient sortis, qui disaient que ça allait être la fin du monde. Là, on se rend compte, effectivement, avec le progrès technique, avec, grâce à la hausse des prix du pétrole, hein, en partie, qui ont rendu tout un tas de pétrole rentable, qu'on a du pétrole pendant des années. Aujourd'hui, la vraie question, c'est combien on doit en sortir pour ne pas porter atteinte au climat. Et je reviens encore là-dessus, je suis désolé.
Des études le montrent, des
gens se sont amusés à faire des prévisions, et certains même disent qu'il faudrait laisser deux tiers des réserves prouvées, celles que l'on connaît, deux tiers des réserves prouvées sous le sol, si on voulait tenir l'objectif de 2 degrés d'ici la fin du siècle posé par le GIEC. Donc on se rend bien compte qu'aujourd'hui, la vraie question, c'est combien on pourra utiliser du pétrole, et pas si on va manquer de réserves de pétrole, parce que là, on en a pour très longtemps.
Oui, sur ce point, Francis Dussault, et puis on repasse au standard.
Juste un petit point essentiel, à mon avis, c'est que le pétrole de schiste peu cher aux États-Unis a déplacé du charbon. Et ce charbon disponible aux États-Unis est exporté en Europe. Et même un pays comme l'Allemagne, qui a décidé de fermer ses centrales nucléaires, redémarre des centrales électriques au charbon. Je crois qu'il faut voir les composantes. Alors, toutes les énergies renouvelables, il faut les développer. Mais avec des soucis de rentabilité et de compétitivité, on peut pas faire n'importe quoi. Mais il faut se préoccuper de la logique pétrole, gaz et charbon surtout. Parce que moi j'ai lu aussi que si on éliminait demain toutes les centrales au charbon, on résout le problème des 2 degrés.
François est au standard, il nous appelle de Picardie. Bonsoir et bienvenue.
Oui, bonsoir et merci beaucoup à vos émissions. J'aurais bien aimé voulu entendre aussi Bernard Maris. Mais donc je pose ma question. On a bien compris tout à l'heure l'importance de la recherche et de l'application du gaz de schiste aux États-Unis dans la baisse du prix du pétrole. Je voudrais savoir, puisque vous avez beaucoup de spécialistes autour de vous, monsieur Demorand, qu'est-ce qu'il en est de la possibilité d'exploiter le gaz de schiste en France ?
Merci François pour cette question et pour votre salut amical à Bernard Maris. Thomas Porcher. Gaz de schiste en France, je crois que sujet explosif.
Mais oui, mais je crois que sur le gaz de schiste, maintenant, plus beaucoup de monde y croit. Hein. Même Total, vous regardez, Total dit bien que le gaz de schiste ne sera pas un game changer en France et en Europe. Moi, j'ai appelé ça un mirage. Voilà, on n'a pas les mêmes infrastructures qu'aux États-Unis. On aurait un coût d'extraction qui serait beaucoup plus cher qu'aux États-Unis. Tout ça prouve qu'il y a de fortes chances que le gaz de schiste ne soit pas rentable en France, ou dans tous les cas que ce ne soit pas ce qu'on a eu aux États-Unis, ce miracle économique. Et je vous dis, les spécialistes du pétrole appellent ça, ils disent que ce ne sera pas un game changer. Donc que ça n'aura pas de gros impact sur l'économie. Donc à quoi bon ? Je ne vois pas.
Francis Dussault, à quoi bon le gaz de schiste en France ?
Moi, je crois qu'il faut être pragmatique. Pour l'instant, le débat est explosif en France. D'abord, nous-mêmes, l'industrie du pétrole, on veut pas trop toucher de ces belles. Il y a d'autres priorités. Par contre, je crois qu'il faudrait qu'un indépendant fasse une cartographie du sous-sol français. Commençons par ça. D'ailleurs, c'était prévu dans la loi et ça n'est pas mis en application. Et après, ensemble, on voit comment on exploite quelle sécurité on prend, quelle garantie de protection de l'environnement. Mais si vous voulez, je crois qu'on oublie trop vite la richesse qu'a apporté le gisement de Lac en France. C'est considérable. Et si, par hasard, les géologues américains nous disent que le sous-sol français a plutôt une géologie favorable. Si on avait du gaz et du pétrole de schiste disponible, ça vaudrait quand même le coup de se poser la question de l'exploiter ou pas.
Donc vous attendez que ça se calme sur le front de l'opinion publique pour reposer la question techniquement, la tête reposée. C'est bien ça, Francis Dussault.
Tout à fait. Et des grands hommes politiques, Monsieur Rocard, Monsieur Sarkozy et je crois Monsieur Juppé récemment, ont dit oui, il faut aller voir. Ils n'ont pas dit je vais exploiter sauvagement. Ils sont beaucoup plus prudents. Mais il faut aller voir.
Francis Perrin, sur les gaz de schiste en France.
Alors, dans le cas de la France, il y a cette loi de 2011 qui interdit le recours à la fracturation hydraulique, ce qui est le moyen que l'on connaît aujourd'hui, utilisé massivement aux États-Unis pour extraire du gaz de schiste, du pétrole de schiste. Donc, le débat sur le plan juridique et politique est clos en France jusqu'en 2017, pour la même raison que nous évoquions tout à l'heure. Oui. Cela dit, effectivement, je crois que on a toujours intérêt à savoir plutôt que ne pas savoir. Et moi, je pense qu'il serait important que l'on ait une idée du potentiel français, des ressources françaises en hydrocarbures de schiste. Ça n'oblige pas à les exploiter, mais il vaut mieux prendre des décisions sur la base d'informations solides que le contraire. Mais c'est la France. La France, évidemment, c'est pas dominant dans le monde de l'énergie. N'oublions pas qu'en dehors des États-Unis, plusieurs pays s'intéressent au gaz ou au pétrole non conventionnel. Il y a le Mexique, il y a l'Argentine, il y a l'Algérie, il y a l'Arabie Saoudite, il y a l'Australie, il y a le Royaume-Uni, il y a la Pologne, il y a l'Ukraine. Donc voilà, l'énergie ne se réduit pas à la France.
Peut-être que l'écologie, en revanche, est un bon créneau pour nous.
C'est un créneau dans lequel on
dit oui. Tout le monde dit oui. On va s'arrêter là. C'est une bonne nouvelle. Thomas Porcher, merci, économiste, auteur de 20 idées reçues sur l'énergie, de Box Supérieur. Francis Perrin, président de Stratégie et Politique Énergétique, directeur de la rédaction de Pétrole et Gaz Arabe. Francis Dussault, merci, monsieur le président de l'Union française des industries pétrolières. Et bonsoir à Kathleen Evin.
Mais bonsoir, Nicolas.
L'humeur vagabonde dans quelques minutes. Sur quoi?
Oui, nous allons parler de l'étrange vie de la famille Boltanski grâce au formidable livre que Christophe Boltanski vient de publier aux éditions Stock et ça s'appelle La Cache.
Et c'est une splendeur.
Ah ben je suis bien contente que vous partagiez mon avis.
Merci Kathleen, à tout à l'heure.